Oui, c'est Christophe de Gap. Bonjour à toute l'équipe. Et donc, c'est dans les Hautes-Alpes. Et pour fêter donc le rapport du GIEC, eh ben, ils ont eu une idée géniale, c'est de faire le meeting aérien. Et voilà, en plus de tous les loisirs motorisés qui dénaturent ce magnifique département, eh ben voilà, c'est la fête. 1 litre de carburant diesel représente 2,603 kg de CO2. Alors, tous les gens vont se déplacer, 50 000 personnes attendues. Eh bien voilà, bravo, on est dans la transition. Allez, bonne journée, à bientôt.
Bonjour, je vous appelle au nom de l'association Les Prés de la Garde dans la Nièvre. L'État veut développer les productions d'énergie renouvelable. Ainsi, la Chambre d'agriculture de la Nièvre a annoncé vouloir installer 2000 hectares de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles. Nous avons eu connaissance qu'une société travaillait sur un projet d'agrivoltaïsme comprenant 174 hectares, entourant nos 7 maisons, et cela sur des terres fertiles et riches en faune et flore. Avis juridique concernant la plantation à proximité des habitations existe. Nous sommes fermement opposés à ce projet et très inquiets. De nombreux projets fleurissent partout en France, ne prenant pas en compte la loi climat et résilience qui préconise l'installation de panneaux voltaïques sur des friches, des parkings, des sites pollués. Merci de nous soutenir au travers de notre page Facebook Les Prés de la Garde et de notre pétition en ligne. Merci et bonne journée.
Bonjour, Alexis de Saint-Lô dans la Manche. Je vous appelle pour répondre au message laissé par un auditeur la semaine dernière, à l'écoute duquel j'ai failli m'étouffer. Le message était très critique envers la chasse et les chasseurs et reprenait notamment le fantasme des anti-chasses, l'élevage des sangliers par les chasseurs pour les lâcher dans la nature et pouvoir les déclarer nuisibles ensuite. Ceci est un mythe. Non, les chasseurs ne lâchent pas de sangliers d'élevage dans la nature. Cet auditeur disait également que puisque seulement 20% des agriculteurs étaient chasseurs, les chasseurs sont donc majoritairement des citadins. La population rurale est donc réduite aux agriculteurs ? Soyons sérieux. Non, la chasse n'est pas parfaite. Mais non, elle n'est pas responsable de tous les maux qui détruisent notre nature. Bien au contraire, renseignez-vous. Ne succombez pas à cette mode de l'anti-chasse primaire qui touche même les employés de France Inter dont j'aime pourtant le travail en général, comme Madame Camille Cronier. Et oui, il y a des chasseurs qui écoutent France Inter. Bon vie à votre émission.
Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Melario de Thouars. Je viens vous parler de réduction des déchets et du site lesdéchetsticiens.fr que je tiens depuis début 2021. La prévention des déchets, c'est devenu prioritaire pour nos politiques déchets depuis la loi du 13 juillet 92. Ça fera 30 ans l'an prochain. Pourtant, force est de constater que passer de la théorie à la pratique, c'est compliqué. On entend beaucoup parler d'économie circulaire, de recyclage et de valorisation des déchets qui demeurent hégémoniques. Depuis 92, la prévention des déchets n'a pas beaucoup progressé dans les faits. Par exemple, en 2018, seulement 1% des dépenses des collectivités allaient à la prévention des déchets selon l'ADEME, alors que normalement, c'est le mode de gestion prioritaire. C'est à partir de ce constat que j'ai créé lesdéchetsticiens.fr, un site indépendant d'information et de réflexion sur la réduction des déchets. Bonne journée.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
C'est l'histoire de France la plus ancienne que nous allons vous raconter cet après-midi, une histoire naturelle qui va nous faire remonter bien avant l'émergence de l'espèce humaine lorsque les paysages et le climat n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire, c'est celle des roches qui ont formé notre pays et le continent européen. Un voyage de plus de 2 milliards d'années dont les traces se retrouvent toujours dans notre environnement et qui témoignent d'une étonnante diversité géologique. Et pour en parler cet après-midi, nous recevons les géologues Patrick de Wever et Arnaud Guérin. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux. Bienvenue Patrick de Wever, vous êtes professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous publiez chez Belin Histoire secrète de cailloux, c'est une plongée dans le monde minéral qui nous entoure. Et puis Arnaud Guérin, vous êtes vous photographe et spécialiste des volcans, vous êtes le co-auteur d'un documentaire qui s'appelle France, le fabuleux voyage et ce sera diffusé demain soir en prime time à 21h donc sur France 2. On va se retrouver dans un instant pour faire ce tour de France géologique et vous allez bien sûr répondre aux messages, aux questions, aux témoignages qui arrivent sur France Inter. Les réseaux sociaux et l'appli France Inter où on peut entendre votre voix avec nos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30 pile poil, on passe au vert.
Avec les hérissons, ça va pas fort pour eux en France. Il y en a de plus en plus en ce moment dans les centres de sauvegarde. Donc on sait pas trop pourquoi, mais on va essayer de savoir.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardier, Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux, Arnaud Caillet et Jérémy Kaufmann à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. sur France Inter.
De nos jours, il reste bien peu de cette jeunesse de la Terre. Quelques falaises près de la Hague, en Normandie. Un grand rocher solitaire échoué sur une plage, dans la petite anse de Culleron. Cette masse noire, c'est la plus vieille roche de France. Elle a connu les profondeurs de la Terre. Ses flancs racontent les magmas et la fusion. C'est un voyageur du temps qui a 2 milliards d'années. Et l'on passe à côté, sans vraiment le voir.
Extrait du documentaire donc France, le fabuleux voyage, la voix de Philippe Torreton. Ce sera donc demain soir sur France 2. Vous êtes co-auteur, Arnaud Guérin, de ce film. Et on parle de la géologie de notre pays avec également votre camarade géologue Patrick de Wever et ce livre Histoire secrète de cailloux, qui est un tour du monde minéral. Patrick de Wever, qui nous emmène de la Haute-Provence au désert du Sahara en passant par Saint-Pierre et Miquelon. Qu'est-ce qu'on apprend d'ailleurs, Patrick de Wever, en regardant tout simplement les roches et les paysages qui nous entourent? C'est quoi l'information principale quand on regarde ça de plus près?
Mais d'abord, ça appelle le mythe. Quand on regarde quelque chose et qu'on ne sait pas pourquoi, quand on ne comprend pas, l'homme a une telle prétention qu'il veut donner une explication. Ouais. Donc, il met un mythe.
Oui, c'est vrai.
Et puis, là, on a voulu montrer simplement que derrière les mythes, on peut avoir une explication qui n'est pas du tout mythologique. Les mythes, pour moi, c'est un peu comme une rustine sur l'incompris, en fait. Et là, j'ai voulu montrer que, certes, il y a des mythes, c'est bien, ça fait rêver. Mais enfin, il y a une explication plus rationnelle.
Vous nous dites aussi que ça nous permet, quand on observe les roches, de prendre conscience de la dimension vraiment de la nature, finalement à son échelle temporelle, mais aussi sur ce qu'elle représente comme matière sur la Terre.
Oui, il y a une double dimension. La dimension temporelle, généralement on mesure ça à l'aune de l'humain.
Oui, ce qui n'est pas grand-chose.
On a évoqué la 2 milliards d'années, on n'est même pas à la moitié de l'âge de la Terre.
Ouais.
Donc, il faut s'amuser à calculer combien ça fait de générations, ça, par exemple.
Ouais.
Et là, on commence à attraper le tournis un petit peu. Et dans mesure où le temps est beaucoup plus vaste, des vitesses même extrêmement lentes permettent la roche qui est très dure, en fait, c'est de la pâte à modeler, c'est de la guimauve.
Ouais.
Alors, ça, c'est pour le temps. Et puis, pour l'espace, on a longtemps confondu gigantesque et infini. Hein, la Terre est inépuisable, parce qu'on pensait que c'était tellement gigantesque que c'était inépuisable. Et puis, depuis 72, enfin, c'est apparu en 72, mais on commence seulement à se rendre compte que la Terre, c'est fini. C'est pas infini. Et que donc, il y a des ressources qui sont épuisable.
Ouais. Arnaud Guérin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, finalement, sur cette perception justement de la roche, ce qui est aussi l'objet de votre documentaire demain soir? C'est une autre façon de la percevoir et de la comprendre. Hein.
Bah écoutez, la roche, c'est sensationnel au sens premier du terme. Vous passiez l'extrait qui parle de cette anse du Curon dans la Hague, là, chez moi, en Normandie.
Ouais.
Et vous pouvez aller mettre votre main, vous, être humain, sur un objet qui a 2 milliards 85 millions d'années, puisqu'aujourd'hui, on sait dater ces roches.
Ouais. C'est la roche la plus ancienne de l'Europe, même, on pourrait dire?
Non, de la France.
France.
Et donc on va mettre cet objet à voyager sur la moitié de l'histoire de la Terre. En termes de, là vous parliez de mythe tout à l'heure, en termes d'histoire, pour moi qui suis géologue, nous les géologues, on regarde de manière très différente les paysages, puisqu'on a des notions qui nous permettent de donner des échelles de temps, en tout cas qui permettent d'expliquer un certain nombre de choses, qui permettent de mettre ce paysage en mouvement. Et c'est très environnemental, c'est très histoire naturelle, au-delà de la géologie pure et dure. C'est vraiment une histoire, et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce film, c'est-à-dire raconter ce grand roman de la France, ce grand conte. On l'a imaginé au départ pour des enfants qui regardent ça juste avant Noël. Là, et c'est une grande histoire qui emmène. Et cette histoire, et la France est à ce site particulier, c'est qu'on a une unité de lieu comme au théâtre. C'est très petit, c'est presque minuscule à l'échelle de la planète. Et pourtant, on a quasiment la moitié de l'histoire de la Terre sous nos pieds, dans nos bâtiments, dans tout ce qui nous entoure. Et là, le décryptage, ça permet de mieux comprendre nos environnements, ça permet de mieux comprendre la faune, la flore. Et donc voilà, c'est cette notion-là.
Mais cette roche-là dont vous parlez de 2 milliards d'années dans le Cotentin, c'est une rescapée au fond de tout ce mouvement géologique.
C'est une relique. Moi, j'aime bien parler de Sainte-Chapelle de la géologie quand je descends avec des gens dans cette anse du Curon, parce que cette anse, elle est vraiment enclavée.
Ouais.
Et puis on a ces roches qui sont là, elles sont magnifiques. On appelle ça, nous géologues, des gneisses. Elles sont toutes torturées par l'histoire du temps, par les chaînes de montagne.
Ouais.
Voilà, c'est une émotion qui est une émotion primordiale.
Patrick de Wever.
Oui, il vient d'être évoqué le fait qu'on voit les choses bouger. Effectivement, il y a quelques années, je faisais du vélo avec un ami dans le Vercors. Et forcément, on était un ami, donc on parle, on voyait le paysage. Et le soir, il m'a dit, c'est assez extraordinaire. Quand je vois, je me balade ici, je trouve ça très très beau, mais je vois du trois dimensions. Et ouais. Il dit, toi, quand tu regardes les paysages, tu vois du cinéma.
Ouais.
Tu vois les choses en train de bouger parce ouais. que tu vois quelques millions d'années en arrière et quelques millions d'années en avance. Et c'est ça qui fait que les géologues, souvent, sont des gens heureux.
Ouais.
Parce que justement, ils ont une dimension supérieure à la moyenne.
Mais justement, dans votre titre de ce livre, Histoire secrète de cailloux, il y a ce mot cailloux qui fait pas franchement rêver, c'est ouais. pas ultra sexy, hein, un ouais, caillou, franchement. Vrai. Et ça donne cette idée de choses figées, précisément. Alors, ce que vous nous racontez, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que cette géologie, elle vit en permanence, sauf qu'on la voit pas sous nos yeux.
Oui, justement, le mot caillou a été bien sûr à dessein.
Ça l'avons choisi. Que, ouais.
Attends, on peut... Généralement, le caillou, c'est gris, c'est ce qui est dans la chaussure qui empêche de marcher. Mm. Or, ça nous raconte des histoires extraordinaires, au sens extraordinaire. Et donc, ça fait rêver. Et il y a quelques années, on me disait, j'étais à un festival de sciences à Toulouse, et il y avait quelque chose sur la science-fiction, on m'a dit, ça serait bien que vous veniez participer à la table ronde. J'ai dit, non, je n'y connais rien. Ils insistent, j'ai dit, non, je n'y connais rien, et en plus, je n'aime pas.
Ouais.
Et ils m'ont dit, il faudrait venir nous dire pourquoi vous n'aimez pas. Alors, j'ai pas eu de réponse, mais j'ai eu quelques heures à réfléchir, je me suis dit que je n'aimais pas parce que je n'en avais pas besoin. Le rêve, moi, je l'avais avec mes cailloux. On imagine des paysages au Jurassique, on imagine les dinosaures qui se promènent. Oh, on a des choses merveilleuses sans avoir besoin de fiction.
Oui. Ça, c'est vraiment le fantasme du géologue. Hein. Je me retrouve complètement dans vos propos, c'est-à-dire qu'en fait, on voit l'épaisseur du temps. Et cette épaisseur du temps fait que, d'un seul coup, c'est totalement du cinéma. Alors après, quand on le traduit en film et qu'on bosse avec un réalisateur de cinéma, voilà, lui voit aussi des images et c'est la confrontation de tout ça qui donne naissance à un documentaire qui est au-delà du documentaire, qui est plus un film. Qui est plus un grand conte qui raconte ça.
Allez, petit extrait justement autour de l'histoire de la Bretagne, une histoire parmi tant d'autres, parce qu'on fait quasiment tout le tour de France avec vous, avec toujours la voix de Philippe Torreton.
Il faut venir ici, à la pointe du Raz, pour voir ce qu'il s'est passé ensuite. On admire les phares, mais on regarde à peine ces rochers où la mer se brise. Pourtant, le vrai trésor, ce sont eux. Ils forment les restes d'une Bretagne que personne n'a connue. Bien plus imposante que tout ce que l'on pourrait imaginer. Une immense chaîne de montagnes. Plus grande que tout ce qui existe sur Terre aujourd'hui. Ce massif ferait près de 6 fois la taille de la France. Il culminerait à 8000 mètres d'altitude. C'était il y a 300 millions d'années.
Et c'était la Bretagne, enfin, évidemment, la forme de la Bretagne de l'époque, il y a 300 millions d'années, évidemment, parce que la France n'existait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Et il faut imaginer une chaîne de montagnes aussi haute que l'Himalaya, Arnaud Guérin.
Oui, comme les Alpes, l'Himalaya. Ouais. En fait, on a des structures qui sont des structures plurikilométriques, comme on l'a dans les grandes chaînes de montagnes d'aujourd'hui. Et puis, il faut le voir, on peut pas tout représenter dans un documentaire, mais il faut voir qu'à l'époque, il y a 300 millions d'années, on était sur l'équateur. Et qu'encore une fois, tout est dans cette dynamique. Et c'est vraiment du cinéma. Je vous rejoins sur la science-fiction. En fait, notre planète est tellement extraordinaire au sens premier du terme que on a tout à voir, on a cette dynamique. Et puis, on a cette utilisation par les hommes parce que nous vivons dans ces environnements-là. Et nous avons appris à tirer la quintessence de ce que la Terre nous donne. Cette si petite planète, le voyage au centre de la Terre, Jules Verne, c'est 6370 km, c'est rien du tout. Le rayon de la Terre, c'est vraiment rien. On habite sur un petit caillou, et je vous rejoins sur cette notion de caillou. C'est vraiment pas grand-chose, et pourtant on a une diversité de paysages, d'environnements. Et aujourd'hui, nous géologues, pour se représenter le passé, ben on va voir ailleurs sur la planète ce qui se passe, et c'est ce qu'on a fait en termes de montreur d'images dans ce film.
Et on reviendra sur la Bretagne et ses montagnes himalayennes tout à l'heure. Camille, il y a déjà pas mal de messages sur Instagram, entre autres.
Oui, on a posé cette question ce matin aux gens qui nous suivent sur Instagram. Quel est le site géologique en France qui vous fascine le plus ? On a plein de réponses. Ouais. Je vais vous les donner dans un instant, mais d'abord, juste comment on définit un site géologique ? Quelle est la différence ? C'est-à-dire, quel est, par exemple, votre paysage qui vous fascine le plus, Patrick de Wever ?
Un site géologique, ça peut avoir diverses dimensions. Ça peut être du grand paysage, le siècle de Gavarnie.
Il faut qu'il y ait du caillou, hein, pour reprendre votre terme. On est d'accord ?
Non, parce que nous, en dessous des arbres, on voit le caillou. On n'imagine pas que quand vous êtes promené dans les Pyrénées, justement je l'ai fait dans les Pyrénées, on voyait des bandes d'arbres. Ça avait des couleurs légèrement différentes, parce qu'il y avait des arbres légèrement différents. Et s'il y avait des arbres différents, c'est parce qu'il y avait une roche différente. Donc souvent, on met le monde minéral et la biodiversité.
Ouais.
Mais la biodiversité dépend de la géodiversité. Si on a du roquefort à Millau, c'est parce qu'autour, il y a un plateau calcaire. Plateau calcaire, c'est sec, il n'y a rien qui pousse. Un tout petit peu d'herbe, seulement des moutons. Des brebis, elles donnent du fromage qu'on stocke en dessous, c'est un gruyère. Enfin, non.
C'est du roquefort.
Donc, un site géologique, ça peut être n'importe quel paysage.
Oui, si pour revenir à ça, oui. Ouais.
Bon, on leur laisse un peu le temps
exactement.
De continuer à nous répondre, c'est ça
hein. Voilà, vous allez sur Instagram et puis vous pouvez nous donner vos réponses. On en parle dans un instant avec nos invités Patrick de Wever et Arnaud Guérin.
Laissez-moi vivre.
C'était Delgrès sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Nos invités sont géologues Patrick de Wever avec Histoire secrète de cailloux chez Belin et Arnaud Guérin. France, le fabuleux voyage, ça vous le verrez demain soir à 21h sur France 2. Qu'est-ce qui est arrivé à la Bretagne exactement, Arnaud Guérin? Alors pourquoi cet Himalaya a disparu?
Bah, tout simplement parce qu'une chaîne de montagne, ça met 150 millions d'années à se former, 150 millions d'années à s'éroder. Et il y a 300 millions d'années, on était à l'équateur, dans un moment de choc tectonique entre des plaques qui vont faire que tout ça, ça va se plisser. C'est exactement comme deux voitures qui se rendent dedans. Les capots vont devenir plus courts, mais plus épais. Et là, c'était deux grosses voitures qui se rendent dedans.
Ouais.
Et donc, ça a donné des reliefs qui sont des reliefs. C'est une chaîne de montagnes planétaire avec des reliefs qui étaient certainement hauts comme les Alpes ou l'Himalaya. Et c'est vrai que moi, j'ai ce souvenir, c'est l'image qu'on a mis dans le film, j'ai ce souvenir d'une navigation à la pointe du Raz, où je voyais Crozon loin, etc. Et en fait, je m'imaginais ces montagnes à l'époque.
De 8000 mètres. Hein,
voilà, ça devait être quelque chose.
Ouais.
Et en fait, la caractéristique de ce film, c'est d'avoir rendu ça possible. Et on est allé chercher les montagnes qui poussent parmi les plus vite au monde aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, les Alpes de Nouvelle-Zélande, avec des reliefs qui sont extraordinairement acérés et qui ressemblent vraiment beaucoup, certainement, à ce que, je dis bien certainement, à ce qu'était, la Bretagne il y a 300 millions d'années.
Juste pour illustrer. Le massif armoricain, c'est vraiment le reste, le résidu au fond de cela
ou pas? Le massif armoricain est comme tous les autres morceaux, le massif central, la Normandie, les Vosges, il y a des portions en Corse, il y a des portions dans les Alpes, et tout ça, c'est vraiment le soubassement de la France.
Ouais.
Et tout ça, on imagine toujours que c'est des histoires qui sont des histoires très figées dans le temps. En fait, nous, on voit ça, voilà, les chaînes de montagnes. Vous venez chez moi en Normandie, on a les traces de 3 chaînes de montagnes. Il y a 2 milliards 100 millions d'années, il y a 600 millions d'années, il y a 300 millions d'années. Et quand j'ai des Suisses qui viennent, je leur dis, on en a une de plus que chez vous.
Vous avez parlé de Crozon, Arnaud Guérin. C'est la réponse de Yann à la question qu'on a posée donc sur Instagram. Quel est le site géologique en France qui vous fascine le plus? Donc Yann nous dit Crozon et ajoute la baie Saint-Michel, du Mont Saint-Michel. Maïwen nous parle de la dalle aux Ammonites dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de Digne. On a les Monts d'Arrée aussi qui sortent de la part de Thierry. On a énormément de réponses, hein, je vous en donne quelques-unes. Et Gaëlle, elle nous donne Étretat. Patrick Devey vers Étretat, site géologique fascinant?
Oui, d'abord, c'est beau. Et ça a été peint par des peintres et aussi par des écrivains. Et puis, c'est un joli site, c'est tout blanc, sous un ciel bleu, ça fait rêver, un ciel blanc virginal. On dit, ah là là, c'est la pureté même. Et quand on sait ce que c'est l'accumulation... En fait, je dis souvent, c'est une histoire de fesses. Mais entendons-nous bien. F... E accent grave, C-E-S, hein, fesses, de pelote fécale.
Les excréments.
Des excréments, parce que il y avait plein de petits organismes, de petites algues surtout, qui vivaient dans l'eau. Il y avait d'autres petits organismes, tout petits, des capodes, qui les mangeaient. Et la partie organique, il la digérait, il l'utilisait pour leur énergie. Et la partie minérale, il l'utilisait pas, il la rejetait. Il la rejetait dans les petites pelotes fécales. Et c'est l'accumulation de ces pelotes fécales qui font qu'on a ces accumulations de nano-algues calcaires. Ouais. En fait, donc, les falaises d'Étretat, quand vous voyez des couches, vous voyez des empilements, c'est un lisier.
Donc, ce que vous
en français, vernaculaire, c'est un tas de merde.
Voilà, c'est pas très vendeur pour le tourisme local, mais Étretat, c'est un tas de merde, c'est ce que vous nous dites. Voilà.
Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le produit de la vie. Et que ça, c'est la relation entre le géologique et l'atmosphère aussi, via les océans. Et donc, quand on voit ça, c'est une formidable ode à la vie. Et donc, le géologique, c'est pas que du caillou au sens pur. C'est aussi tout ce qui fait que les organismes vont fixer le CO2 de l'atmosphère et vont développer des squelettes qui vont s'accumuler. Et tout ça dans une dimension qui est rendue possible par un élément qui s'appelle le temps.
Ouais. Mais est-ce que du coup, on peut dire que c'est un caillou à être tard? Alors, non.
C'est un ensemble de cailloux, oui, oui. Ouais. Mais s'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait aucun calcaire. Étretat, on vient d'en parler, mais tous les monuments de Paris, c'est fait avec l'accumulation de petits restes d'organismes qui vivaient. Je répète, s'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas de calcaire.
Alors ça, c'est génial, d'ailleurs, dans le film qu'on pourra voir demain soir, c'est-à-dire que la pierre de taille de Paris, on peut voir encore véritablement la marque des organismes comme les coquillages dans la roche.
Oui, et si vous mettez un tailleur de pierre à côté d'un géologue, en fait, ils parlent le même langage, ils n'ont pas fait les mêmes études, mais en fait, ils comprennent parce que lui, avec son ciseau, il va tailler cette pierre, et on le voit dans le film, et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'un site, une ville, l'histoire d'une ville, l'histoire architecturale d'une ville, c'est lié profondément à son sous-sol, et vraiment profondément, c'est-à-dire qu'on va chercher les matériaux en dessous et on va construire au-dessus.
Et cette pierre de Paris, par exemple, elle a quel âge?
Elle a 40 millions d'années.
Ouais.
Et c'est une histoire qui est une histoire plus ancienne. Alors dans le film, on a pris quelques étapes. Alors pour les géologues, bien sûr, c'est pas une histoire. On peut pas tout aborder. Mmh. On a pris quelques éléments qui permettent de raconter une grande histoire et de faire ce conte. Mais ces éléments-là sont des éléments qui sont vraiment propices. Quand on parle de Paris, les premières images du film, nous sommes il y a 160 millions d'années dans la mangrove qui était le bassin parisien, le réalisateur a eu cette idée géniale, c'est-à-dire de mettre les monuments de Paris dans le paysage de l'époque. Un paysage qu'on est allé tourner en Australie pour avoir des paysages qui sont identiques aujourd'hui. Et de se dire que voilà, c'était ça. Et en fait, ça donne une notion qui est une notion extrêmement dynamique, où chacun est à sa place, le temps, le climatique avec une autre échelle de temps. Et tout ça, ça donne une histoire qui est une histoire formidable, celle de notre pays.
Donc ça veut dire que quand on se balade à travers la France, à travers les villages où on voit les maisons, les pierres changer, c'est une sorte d'odyssée de la géologie française.
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un livre qui fait une association géologie et architecture. C'est ce que je suis en train de faire.
Une question de Gilles.
Mais c'est aussi l'objet du film finalement.
C'est complètement l'objet du film. Comme les produits du terroir sont, vous parliez du Roquefort tout à l'heure, c'est exactement ça.
Il y a le patrimoine et l'histoire géologique.
Tout à fait.
Ouais. Une question de Gilles sur franceinter.fr. Est-ce que l'altitude des chaînes de montagnes se réduit avec le passage du temps, Arnaud Guérin?
Il y a Michael Pitiot qui est le réalisateur, a fait une séquence très, j'allais dire très poétique sur le rôle de l'eau. Parce que sur la planète, en fait, tout finit dans le fond des océans, dans ce lisier dont vous parlez tout à l'heure, dans cette espèce de compost extraordinaire, parce que les chaînes de montagne, elles poussent, et puis elles sont contrecarrées par l'érosion qui est perpétuelle, et c'est un équilibre. Et encore une fois, sur la planète, on s'aperçoit que tout est en équilibre, et la géosphère, tout ce qui concerne l'histoire de notre caillou sur lequel nous vivons, est en équilibre, et c'est un équilibre qui est un équilibre perpétuel.
L'altitude baisse ou pas, alors?
Donc l'altitude, la tectonique fait que ça monte, et en même temps que ça monte, c'est déjà érodé, ça s'érode déjà, et donc le climat va faire que ça va s'éroder, et on a des altitudes maximum, ça c'est très débattu, mais en tout cas des altitudes maximum des chaînes de montagne qui sont liées aussi à ça.
Mais quand on parle d'équilibre, attention, c'est pas un équilibre statique. La nature n'est pas statique, c'est un équilibre dynamique. Ça veut dire que c'est en perpétuel rééquilibrage d'un déséquilibre. Ça s'élève, mais en même temps ça s'érode. Et plus ça s'élève haut, plus ça s'érode fort.
Mais il y a une vitesse moyenne, Patrick de Wever, ou finalement c'est très indépendant, quels que soient les lieux où on se trouve?
Ça varie suivant les montagnes. Ça peut être de l'ordre de 1 cm par an, ou en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être bien 10 cm par an.
Quasiment, ouais, l'endroit où on est allé tourner, là, le Mont Cook, c'est quasiment 10 cm par an, 7 cm.
Oui, donc c'est beaucoup.
C'est énorme. C'est quasiment visible à l'échelle humaine. C'est-à-dire que le géologique se confronte au biologique et à notre histoire.
Allez, l'histoire de France géologique, c'est le dossier de la Terre au carré avec vos messages. Et vos témoignages sur le site de l'émission
France Inter. La Terre au carré.
Mais pour le moment, à 14h31, nous avons un dossier hérisson qui nous attend, Camille Cronier.
Et oui, pour cette journée mondiale des animaux, je fais une alerte mignon hérisson qui n'irait pas très fort dans l'Hexagone, figurez-vous. Une étude nationale est même en cours pour tenter de comprendre les raisons d'une supposée surmortalité des petits plantigrades piquants. Je dis supposée parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel sur leur nombre en France, mais les centres d'accueil et de sauvegarde en voient de plus en plus mal en point. Exemple en Seine-Maritime, à Allouville-Bellefosse, l'association Chêne, de 300 hérissons récupérés en 2018. On est déjà à plus de 500 cette année, on est qu'au mois d'octobre. Les collègues de France Bleu Normandie sont allés faire un tour et ont rencontré leur prévôt, soigneuse animalière.
On pense qu'au fur et à mesure des années, le système immunitaire des hérissons s'est affaibli et moins efficace par rapport à un certain nombre de polluants qui vont diminuer en fait cette défense immunitaire, ce qui pourrait expliquer cette courbe exponentielle d'accueil de hérissons dans des états vraiment vraiment préoccupants.
Avec un large panel d'organes touchés par des virus, des bactéries, des parasites, les spécialistes se grattent un peu la tête. Des animaux affaiblis, ils peuvent être déshydratés, amaigris, ou au contraire beaucoup trop gros, comme cette femelle que la soigneuse tient dans les mains.
Ce hérisson souffre d'obésité quasiment morbide, parce qu'en fait elle ne peut plus du tout se mettre en boule, et du coup n'importe quel prédateur a accès à son museau ou ses pattes. Et c'est la mort assurée.
Et oui, parce que son moyen de protection au hérisson, vous savez, c'est de se mettre en boule. Mais la femelle en question est donc trop grosse et se déplace en plus avec beaucoup de difficultés. Et là, ce genre de cas, c'est un petit peu notre faute à nous, humains, qui leur donnons parfois à manger, alors qu'il ne faut pas, explication de Marjorie Poitvin. Elle est responsable de programme à la LPO.
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le hérisson est un animal sauvage et que c'est pas parce que il vient dans un jardin que ça va en faire un animal de compagnie et qu'il faut le domestiquer. Il reste sauvage. Il sait trouver sa nourriture tout seul. Il n'a pas besoin qu'on lui propose des croquettes toute l'année ou qu'on lui donne, alors surtout pas du pain et du lait, surtout pas. Ça, c'est très très dangereux. Même si le hérisson aime beaucoup, c'est très dangereux pour lui, ça peut le tuer.
Voilà, tout cela vient perturber l'équilibre naturel des hérissons et les mettre en danger en plus de la perte d'habitat à cause de l'agriculture ou des constructions, en plus aussi des malheureux écrabouillements sur la route ou des terribles tondeuses à gazon.
Et donc ces différents facteurs, Camille, contribuent à cette surmortalité des hérissons?
Bah, ça leur fait pas du bien en tout cas, hein, alors que les hérissons, je le rappelle, sont une espèce protégée en France. Mais, comme je vous le disais, on n'est même pas certain que ces arrivées en hausse dans les centres reflètent une dégradation plus générale des conditions de vie de l'espèce. Donc avant de parler de surmortalité, il faut les compter, les recenser, d'où l'étude dont je vous parlais. Et l'opération Mission Hérisson. Est-ce que vous connaissez l'opération Mission Hérisson? Non?
Ah, Arnaud Guérin, si, il connaît apparemment.
Oui, oui, il y a pas mal de choses qui sont organisées en ce moment autour des hérissons.
Donc je réexplique, chacun d'entre nous, en fait, pour ces missions hérissons, peut participer. Le principe, c'est d'installer des petits tunnels, des mini-tunnels dans les jardins, avec une feuille blanche sur le sol à l'intérieur, un petit peu d'encre dessus. Comme ça, bah, si vous trouvez les traces de leurs petites pattes, c'est qu'ils sont passés par là.
C'est toujours rigolo d'aller voir le matin s'il y a des empreintes et si oui, à qui elles appartiennent, parce qu'il n'y a pas que du hérisson qui passe dans le tunnel. Et donc, au petit matin, on va voir les empreintes, on les identifie et on les enregistre sur le site de la mission Hérisson. Et donc, en suivant ces lieux plusieurs fois dans l'année, pendant plusieurs années, c'est ça qui est important, on pourra avoir une espèce d'indicateur de l'état de santé de la population de hérissons, et donc voir s'il est en déclin, en augmentation ou stable.
Et en attendant qu'on sache vraiment comment vont les hérissons en France, quelques conseils de Marjorie Poitvin, qui est en charge de cette mission hérisson.
Il faut surtout créer un environnement propice chez soi pour accueillir le hérisson. Donc c'est-à-dire plus d'insecticides, plus de pesticides, surtout pas d'antilimaces, qui empoisonnent les hérissons, qui mangent les limaces empoisonnées. Et c'est essayer de l'aider, donc par exemple en faisant des petits passages dans les clôtures, pas trop tondre, laisser un peu des fourrés, des herbes hautes, laisser des tas de végétation, parce que c'est là qu'il va aller giter, donc faire son nid, pour passer la nuit ou pour passer l'hiver.
Et voilà, donc on s'y met, hein, ça va être le moment, l'hiver, et on les laisse vivre comme des grands. C'est Erinaceus europaeus qui ont déjà traversé 60 millions d'années quand même, hein, à la fois espèce parapluie et sentinelle, parce que si le hérisson disparaît, eh ben c'est que tout l'écosystème autour de lui va mal. Une dernière chose avant de finir, est-ce que vous savez comment la zoologie appelle les bébés hérissons? Ça s'appelle...
Bactéries de Weaver, non?
C'est très mignon. Ça s'appelle les choupissons. C'est un vrai nom. Les choupissons, parce que c'est bien trouvé. Voilà, ils sont effectivement trop choupis. Mais on garde bien en tête qu'ils restent donc des animaux sauvages.
Voilà, alerte mignonnerie. Et d'ailleurs, on a mis une photo de choupissons sur le compte Instagram en story de la Terre au Carré pour que vous puissiez voir. C'est probablement une des bêtes les plus adorables. Les bébés hérissons.
On les laisse tranquilles.
Voilà, on leur fout la paix surtout aux hérissons. Et vous pouvez écouter ce sujet sur franceinter.fr. Allez, tour de France géologique avec nos invités dans un instant. We'll be right back. Talk About It, c'était Jungle sur France Inter et Thierry Lupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Mitterrand l'avait immortalisé. La roche solutrée, mais aussi celle de Vergisson et le Mont Pouilly sont désormais classés sites remarquables. Une manière de pérenniser et garantir la qualité de ce paysage qualifié d'insolite et de pittoresque.
C'est très joli et puis c'est une jolie randonnée, passer dans les vignes, etc. Ça change de paysage et c'est tranquille.
C'est un site majestueux sur lequel on aime venir se promener, venir courir.
Protégé pour les générations futures, c'est l'ambition de ce nouveau classement. Il vient s'ajouter une multitude de mesures déjà prises par le passé, car le site est un haut-lieu historique.
C'est depuis la découverte du gisement archéologique de Solutré que vraiment l'attention a été attirée sur ces trois roches. Et depuis, donc on a mis en avant, encore une fois, les qualités un peu exceptionnelles du point de vue géologique et puis archéologique, hein, puisque sur le plan scientifique, c'est quand même un des grands sites archéologiques européens.
Voilà, la roche de Solutré en Saône-et-Loire, classée donc en décembre 2017, reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'était Isabelle Vernus qu'on entendait, la directrice des archives et du patrimoine culturel de Saône-et-Loire. Et Solutré, on l'apprend dans votre documentaire Arnaud Guérin, France, le fabuleux voyage, eh bien c'est un monumental récif de corail.
Oui, comme toute la Bourgogne de cette époque-là, il y a 170 millions d'années, où on était dans des eaux relativement peu profondes avec de grands récifs. Et alors, quand on fait du cinéma, il a fallu chercher des paysages qui soient des paysages interprétables comme ça pour pouvoir mettre. Et donc, Solutré a connu aussi des chocs tectoniques qui ont fait que ça donne ce paysage-là. Mmh. Mais en tout cas, à l'époque, on n'y allait pas en chaussures de randonnée. Ouais. On a pu y aller avec les bouteilles de plongée et le spectacle aurait été absolument fabuleux.
Patrick de Wever, un site parmi tant d'autres que vous citez aussi livre. Mais
là, ce qui a été souligné dans le reportage, c'est l'esthétique, l'aspect esthétique. Et nous, quand on voit le roche de Solutré, on voit le récif. Ouais. Et on imagine l'esthétique, les petits poissons qui vont avec, etc.
Incroyable.
Et il y a un autre site, pas loin, en Bourgogne, dans l'Yonne, le rocher du Saussois, qui est très connu, c'est le long de l'Yonne, qui est connu de ceux qui font de l'escalade. Et en fait, c'est vrai que c'est un rocher, simplement, ça fait une espèce de chapeau de gendarme. Et c'est parce que c'est un récif. Parce que là, et au Jurassique, c'était une mer tropicale.
Il y avait
les tropiques. Ouais. Oui, mais même plus au nord, en Ardennes.
Et des lagons. Hein,
oui.
C'est ça.
C'est simplement parce que nous étions sur les tropiques. C'est-à-dire que la technique des plaques fait que la France de l'époque était sur les tropiques. Donc en fait, on fait un voyage dans le temps. C'est absolument extraordinaire. Vous parliez de Crozon tout à l'heure. La roche de Crozon, là, le grand armoricain, s'est formé il y a 420 millions d'années, quasiment au pôle sud. Et depuis, n'a fait que voyager pour remonter vers là où c'est aujourd'hui.
Alors justement, Thierry, sur franceinter.fr, voudrait savoir les moyens techniques dont vous disposez pour chiffrer l'âge exact des roches.
Ben, y a un truc extraordinaire qu'on a découvert à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui s'appelle la radioactivité, qui permet de donner des datations absolues aux roches magmatiques. Et puis avant, il y a un exercice absolument aussi extraordinaire, qui est un exercice intellectuel complètement dingue, se dire que quand on trouve des objets géologiques ou des fossiles dans les roches à chaque bout de la planète, ils doivent avoir le même âge. Et les géologues ont fait cette espèce de vision planétaire, de mettre en rapport. C'est exactement comme si vous avez un groupe et qu'on sort pas les cartes d'identité, mais on se dit, en fonction d'un certain nombre de critères, vous avez à peu près le même âge que moi, vous êtes un petit peu plus jeune, et puis on va affiner ça. Et l'histoire de la géologie, c'est ça. Donc il y a les datations relatives. Et puis, il y a les datations absolues maintenant avec la radioactivité pour un certain nombre de roches.
Mais on a des grosses marges d'erreur, Patrick de Wever, quand on veut dater justement ces roches ou pas?
Pour les objets très récents, c'est très faible, bien sûr.
Mais quand on parle de 2 milliards d'années, par exemple.
Oui, 2 milliards d'années, il y a encore pas si longtemps, c'était entre 1,8 et 2,2 milliards d'années.
Quand même, ouais.
Ça fait 600 millions d'années de différence.
Ouais.
600 millions d'années sur Terre, il n'y avait pas encore les trilobites.
Ouais.
Vous voyez, donc c'est pour ça. Aujourd'hui, ça peut être précis sur des choses récentes. On peut être à quelques semaines près. Et ça, c'est avec les radionucléides. Mais suivant la méthode, On peut utiliser le carbone 14, mais on peut pas utiliser le carbone 14 pour les gneiss. Pour les gneiss, ce sont d'autres méthodes. On utilise d'autres types d'éléments radioactifs et que, en fonction de leur vitesse de désintégration.
Vous nous redites ce que c'est que les gneiss pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, qu'on n'a pas entendu tout à l'heure.
Des gneiss, ce sont des roches qui sont allées profondément dans la terre, qui ont chauffé, qui ont recristallisé, qui se sont plissées, et généralement, ils montrent de magnifiques petites vaguelettes. On en voit plein dans les cimetières, et on en voit aussi ici devant de la maison de la radio. Hein, ce sont des gneiss. C'est très joli, ça. Et là, on voit que les cailloux, ça a fondu.
Ouais.
Peut-être pas jusqu'au liquide, mais au moins jusqu'à la pâte. Hein, c'est vraiment... Donnez la pâte à modeler de différentes couleurs à vos gamins, laissez-les jouer 2 ans avec. Ouais. Après, vous faites une coupe, vous avez un gneiss.
Dans la série Définition, tiens, Claire voudrait savoir la différence entre un puèche, un suc, un mont, etc., etc. Est-ce seulement régional, nous demande-t-elle?
Alors, à ma connaissance, ce sont des appellations qui sont des appellations géographiques régionales. Pour nous, géologues, en fait, ça, c'est juste une description du paysage. Nous, on va s'intéresser aux cailloux pour en connaître l'histoire. Je pose pas géologie et géographie, mais en tout cas, c'est vrai que ça, ce sont des appellations qui sont des appellations locales. Et bien sûr, ça a alimenté. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les cailloux ont toujours alimenté l'imaginaire des gens. Et donc, on a toujours fait des histoires pour raconter ces histoires de cailloux. Et nous, on fait juste que perpétuer ça avec des éléments qui sont des éléments factuels, scientifiques, qui sont vrais jusqu'à temps qu'on démontre qu'ils ne soient plus vrais.
C'est quoi les pierres jaumâtres, Patrick de Wever, qu'on voit dans votre
livre ? C'est une petite région.
C'est amusant, ça.
Oui, mais elle doit surtout sa renommée à Georges Sand, hein, qui l'a intégrée dans certains de ses romans. C'est une région qui est granitique, et quelque chose de beaucoup plus connu de tout le monde, c'est la région de Perros-Guirec.
Mais c'est des roches posées, c'est ça ?
Ce ne sont pas des roches posées, ce sont là aussi des reliques.
Oui.
Tout a été fracturé, donc, le long des fractures, l'eau circule, elle dissout là où c'est fracturé.
Mais ça donne l'impression d'une roche posée, quoi, finalement.
Voilà, et après, tout ce qui est fracturé, ce qui est altéré devient meuble, c'est enlevé par la pluie, et ce qui reste, ça reste des boules, comme certaines boules, hein, pariidolie, on appelle ça ces formes qui évoquent une bouteille renversée ou un hippopotame.
On voit des formes d'animaux ou de visages.
Voilà.
Vous avez parlé de Perros-Guirec. Marie sur franceinter.fr nous demande d'où proviennent les gros amas de granit rose entre Perros-Guirec et Trébeurden en Bretagne.
C'est le cœur de la montagne dont on a parlé tout à l'heure. Le cœur de la montagne, il y a eu des remontées de magma, mais qui sont pas arrivés en surface à l'époque, qui ont cristallisé, ils sont restés en profondeur, ça a cristallisé, ça donne ces grands cristaux, et puis la montagne s'est érodée, comme ce fut dit, et comme ça s'érode, le cœur est mis à jour.
Et ça, Arnaud Guérin, c'est 300 millions d'années, ça?
Alors, pour le cœur de Plomana, c'est 300 millions d'années, mais pour le granit qui est autour, c'est 600 millions d'années, c'est la chaîne de montagne d'avant.
Oh là là.
Ce qui est extraordinaire en géologie, c'est que vous pouvez mettre deux objets l'un à côté de l'autre, avec des histoires qui sont des histoires totalement différentes, et souvent avec des centaines de millions d'années. Donc ça nécessite un travail qui est un travail... En fait, c'est toute l'histoire des sciences de la Terre et de l'ensemble des... En fait, les géologues ne font que travailler, remettre sur le travail sur le terrain. Et c'est vraiment le terrain qui... Et bien sûr, le terrain, ce que l'on voit pour le grand public, ce sont des paysages. Et ce sont des paysages qui racontent cette histoire. Et c'est ce qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment la signature de notre pays. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une unité de lieu avec une diversité qui est absolument... exceptionnel.
Ouais.
Et voilà, c'est des chaînes de volcans, c'est des montagnes qui se forment, c'est des glaciations, c'est des impacts de météorites, etc. Et ça, c'est toute l'histoire de France. Et en fait, quand on parle de l'histoire de France, on parle souvent de quelques millénaires. Eh bien, nous, géologues, on donne une profondeur de champ qui est complètement différente, puisqu'on parle en milliards d'années, hein, c'est-à-dire un 1 avec 9 zéros derrière, alors que nous, êtres humains, nous parlons avec un 1 avec 2 zéros derrière, c'est-à-dire le siècle, ce qu'on est capable de concevoir. Même nous qui manions ça tous les jours, on sait absolument pas ce que c'est tellement énorme.
Et l'histoire de vous parliez de météorites, l'histoire de Rochechouart en Haute-Vienne, hein, que vous racontez dans votre livre, Patrick de Wever, parce que ça a été percuté il y a 200 millions d'années, si mes souvenirs sont bons.
Oui, il y a 200 millions d'années. Ouais. On parle toujours de la météorite du
Yucatan.
Du Yucatan qui a fait la disparition des dinosaures. Bon. On va s'arrêter, sinon je vais me mettre en colère.
Voilà.
Mais donc, il est tombé aussi une météorite à Rochechouart. C'est rigolo, le nom presque évoque qu'une roche a chu.
Oui, c'est vrai.
Et on ne retrouve plus cette météorite. mais elle a, on ne retrouve que les effets secondaires.
C'est le cratère, c'est-à-dire, non, les marques du
non,
cratère.
Non, le cratère, c'est, il y a eu un cratère, ouais. Mais ça a été gommé. C'était il y a 200 millions d'années. Hein, ouais. Depuis, la mer, elle est revenue, tout ça. Plus de ça. Mais on retrouve les débris, par exemple, des roches qui ont été instantanément fondues. Et qui sont maintenant sous forme de verre. On se promène dans la ville de Rochechouart, si on regarde les pavés, les bordures de trottoirs, avec une petite gourde pour mouiller parce qu'on voit mieux, et on voit des structures fluidales. C'est une roche qui instantanément est devenue, elle était presque liquide. Ouais. Et bien sûr, elle s'est refroidie très vite, et donc on voit cet aspect fluidal, c'est fantastique.
Ouais. N'allez jamais en ville avec un géologue, hein. Vous n'allez pas faire du lèche-vitrine, vous allez faire du lèche-caillou.
Oui, puis vous ferez un mètre par un mètre,
exactement,
prendre beaucoup de temps. Et Arnaud Guérin, vous parliez de milliards d'années ou de millions d'années, mais quand même, dans le doc de demain soir, la France, le fabuleux voyage, on parle aussi de milliers d'années.
Oui.
Il y a 20 000 ans, par exemple, on avait une glaciation généralisée sur les Alpes. Hein.
Alors, sur la planète, d'une manière globale, avec un niveau des océans entre 120 et 130 mètres en dessous du niveau actuel, et c'est vraiment, là on est dans la fin du film, on raconte l'œuvre géniale de ce réchauffement climatique qu'on est en train de vivre, qui pour nous, géologues, est un phénomène naturel. Je ne parle pas des activités humaines qui sont venues mettre le bazar là-dedans derrière, mais il y a 18 500 ans, c'est le début vraiment de ce réchauffement climatique, et ce niveau marin va remonter au fur et à mesure et va ennoyer la mer de la Manche, et ce qui va donner aussi la géographie actuelle de notre pays. C'est 5 000, 5 500 ans pour avoir le contour de notre hexagone tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les côtes. Et puis ça évolue tous les jours, puisque si on lit les rapports du GIEC, ben voilà, c'est quelques millimètres tous les ans qui montent et qui sont aussi ces éléments-là. Et donc ça donne une vision qui est une vision très dynamique, très environnementale, ouais, de notre pays, pour comprendre dans quelle dynamique nous sommes. Et en fait, rien n'est figé sur notre planète, rien n'est figé dans nos paysages, ça évolue en permanence.
Ouais. Sauf quand on voit la mer de glace aujourd'hui, ce que vous montrez dans le film, c'est une désolation directement due justement à nos activités, sur l'accélération
bien
du
sûr,
du
parce
phénomène,
que si, hein. Si on était, il y a 20 000 ans, la mer de glace allait quasiment jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Ouais. Donc c'est des dimensions qui sont des dimensions complètement étonnantes. Et c'est ça, on n'est pas dans de la science-fiction, on est sur des éléments qui sont des éléments. On n'est pas dans la fiction, on est vraiment dans de la science.
Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de discussion autour du Tour de France géologique.
Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé. Même une saison, et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. D'ailleurs, de ce nom-là, je ne m'en souviens pas. Mon souvenir me tue, mon souvenir me tue. D'ailleurs, de ce nom-là, oui, j'ai tout oublié. Le son de ta voix et l'odeur de l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Et je maudis l'été. Tu m'as dit ton nom. Et s'il arriva que je fus fou de toi, ton souvenir n'est plus qu'un souvenir de plus. Que brûle sans retour les sueurs de nos amours et le soleil noyé. Même une saison,
Je ne t'ai jamais aimé, c'était Babix et Camélia Jordana.
France Inter, la Terre au carré.
Les Alpes sont nées juste après les Pyrénées. Et leur soulèvement se poursuit à la vitesse d'un millimètre par an. La chaîne culmine à 4809 mètres, au Mont Blanc. Ce Mont Blanc n'est pas fait de calcaire, mais de granit. C'est un voyageur du temps qui vient des profondeurs de la Terre. Sous la pression des continents, il a été propulsé au sommet des Alpes. La fascination pour la montagne incite à l'audace. On a construit la station de l'Aiguille du Midi à 3842 mètres, sur la plus haute des aiguilles de Chamonix. Depuis cet incroyable refuge, on voit les dernières neiges éternelles des Alpes. Ce sont les restes d'un immense glacier qui couvrait tout le massif. Il était si vaste que l'on peine à se le représenter. Alors on se prend à rêver à un monde blanc qui a disparu.
Et ce documentaire France, le fabuleux voyage demain sur France 2, la voix de Philippe Torreton, Arnaud Guérin, vous êtes le co-auteur de ce film, Les parois des Alpes, qui sont incrustées, elles aussi, de coquillages et de poissons, c'est ça?
Oui, alors au-delà de ça, on parlait là du massif du Mont Blanc, et tout à l'heure on parlait des montagnes armoricaines.
Ouais.
En fait, le granit du Mont Blanc, il a le même âge que le granit de Ploumana, quasiment, il est cousin. Ils viennent de la même chaîne de montagnes. Par contre, il a été replissé au moment de la formation des Alpes, et c'est un petit peu comme un noyau d'olive qu'on aurait pressé entre les mains, et il est remonté pour donner les plus hautes montagnes d'Europe. Et ce massif qui est vraiment très très particulier, qui est vraiment juste un joyau serti avec des roches qui ont d'autres histoires autour. Et ça, c'est vraiment la magie de ça. Ça donne des reliefs particuliers, ça donne une couleur particulière, ça donne un modelé particulier. Et donc ça, pour nous qui faisons des images, c'est aussi, et pour le grand public, c'est la base des cartes postales, c'est la base des représentations, des affiches touristiques qui ont fait le renom des sites de France. Et ça, c'est encore une fois, c'est l'histoire des cailloux, c'est notre histoire de la Terre.
Une question, enfin plutôt un message de Florence sur franceinter.fr qui nous écrit des Ardennes et il nous dit on a de beaux massifs anciens érodés de schiste, de pierres bleues et de pierres à aiguiser. Vous confirmez, Patrick de Wever?
Oui, la pierre à aiguiser, c'est ce qu'on appelle la cuticule. C'est un grès très fin qui était utilisé surtout quand nous nous rasions avec des rasoirs droits.
D'accord.
Si vous voulez faire le cadeau au monsieur, il fallait lui offrir une pierre de cuticule.
Ah, très bien, parfait.
Une dernière question d'Erwan sur Facebook. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à Arnaud Guérin, par exemple. Il demande si vous, les géologues, votre avis sur l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure avec le recul gigantesque que vous avez en nombre d'années. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une conséquence
Alors,
nos sous-sols?
Alors, c'est un vaste débat, en tout cas, qui est un débat géologique. Toute la problématique, c'est une problématique d'échelle de temps, encore une fois, parce que les objets géologiques que sont les déchets radioactifs vont émettre des rayonnements pendant des temps qui sont des temps géologiques. Et toute la question là-dedans, ça va être de pouvoir donner l'information à des populations, des gens qui vont pouvoir avoir cette information comme quoi ça peut être potentiellement dangereux. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la planète, des objets géologiques radioactifs, il y en a aussi à l'état naturel.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Patrick de Wever, je renvoie sur cet ouvrage, Histoire secrète de cailloux, ces cailloux que vous aimez tant, c'est chez Belin. Et puis donc demain soir, la France, le fabuleux voyage, c'est en prime time à 21h sur France 2. Merci infiniment à tous les deux d'être venus dans la Terre au carré.
Merci.